Prenons un scénario un peu fou, mais qui arrive tous les jours en fait. Une boîte voit l'annonce d'une mise à jour majeure d'une IA, genre le truc énorme.
Ouais, la grande annonce classique.
Exactement. Et le communiqué officiel promet une baisse des prix de 50%. Donc là, la direction technique est aux anges, ils déploient le nouveau modèle partout, et ils attendent la fin du mois.
Et la facture tombe?
Et la facture tombe. Sauf que le coût du cloud n'a absolument pas été divisé par deux. En fait, il a mystérieusement augmenté. C'est exactement ce genre de piège invisible qui guette plein d'équipes avec le déploiement récent, le 9 juillet 2026, de la famille GPT-5.6 d'OpenAI.
Ouais, ce paradoxe financier, c'est au cœur de toutes les discussions dans l'industrie en ce moment. Parce que l'IA aujourd'hui, c'est plus juste un jouet, quoi. On est passé à l'automatisation industrielle.
C'est clair.
Et du coup, changer de modèle sur un coup de tête, ça peut complètement flinguer la rentabilité d'un produit, hein.
C'est justement l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui. On va décortiquer cette mise à jour, mais pas en lisant la plaquette marketing, hein. On va s'appuyer sur un guide technique super pointu qui a été publié par Valentin Charrier de l'agence OCAD Fusion.
C'est une super source, ouais. Ils sont spécialisés dans les agents NNN, c'est du solide.
Carrément. Et donc, notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre est-ce qu'on doit migrer ces agents IA vers cette nouvelle génération? Comment on fait ça sans tout casser? Et surtout, comment on décrypte les vrais coûts? Parce que la vraie question, c'est est-ce qu'il faut toujours céder à la nouveauté?
Pour savoir si on migre, faut déjà comprendre ce qu'ils ont sorti. Parce que OpenAI, ils ont radicalement changé leur façon de nommer les choses.
Ouais, fini les anciens noms à rallonge.
C'est ça. Le 5.6, c'est juste le moteur, la génération. Mais la vraie nouveauté, c'est qu'ils ont divisé ça en trois paliers bien distincts. Sol, Terra et Luna.
Alors avant de voir les différences, il y a quand même un socle commun qui est assez dingue. Les trois modèles ont une fenêtre de contexte d'un million de tokens. Enfin, 1 050 000 très exactement.
C'est gigantesque.
Ah ouais, pour donner une idée, on peut balancer des manuels entiers ou tout l'historique d'un client en une seule fois. Et en sortie, on est bridé à 128 000 tokens, ce qui est déjà pas mal.
Ouais, c'est énorme.
Et un truc que le guide de Quadrifusion raconte, et c'est capital, c'est la date limite des connaissances, le fameux cut-off. Pour les trois, c'est le 16 février 2026.
Ouais, tout ce qui se passe après cette date, pour l'IA, ça n'existe pas. Ses neurones sont figés.
C'est ça. Donc, si on revient sur les trois modèles, Sol, c'est vraiment le haut de gamme pour le raisonnement ultra complexe. Terra, c'est le milieu de gamme très équilibré. Et Luna, c'est la version éco pour les tâches massives.
C'est un bon résumé.
Pour ceux qui nous écoutent, on pourrait voir ça comme une flotte de véhicules d'entreprise, tu vois.
Ah, j'aime bien cette image.
Ouais, genre, Sol, c'est la grue de chantier géante. C'est lourd, c'est complexe, mais pour faire les fondations d'un gratte-ciel, t'as pas le choix.
Exactement.
Terra, c'est la camionnette de livraison, super polyvalente, elle fait le job tous les jours. Et Luna, c'est le petit scooter électrique, parfait pour se faufiler, faire plein de livraisons rapides, et ça consomme que dalle.
C'est super parlant et ça permet de comprendre le problème technique en fait. Parce que la grue, Sol, elle consomme un carburant très spécial avant même de bouger. Les fameux tokens de raisonnement.
Ah, on y vient.
Ouais. Alors que le scooter, Luna, il n'a pas ce réservoir de réflexion. Tu lui parles, il démarre. Et aujourd'hui, le défi, c'est plus d'avoir le véhicule le plus rapide, c'est de bien gérer cette flotte. Surtout Terra, la fameuse camionnette, qui attire toute l'attention.
Oui, parce que c'est là qu'on rentre dans l'économie de l'IA. Et ce fameux paradoxe de la facture. Si on regarde les prix bruts aux millions de tokens, pour Luna, le scooter, c'est 1 dollar en entrée, 6 en sortie.
Ces données.
Et il y a le cache de lecture à 10 centimes. D'ailleurs, tu peux nous expliquer ce cache très vite, parce que c'est souvent mal compris ce truc.
Bien sûr. En fait, le cache, c'est une révolution silencieuse. Avant, quand tu avais un long workflow, tu renvoyais sans arrêt le même gros document à l'IA à chaque étape.
Ouais, et on payait plein pot à chaque fois.
Exactement. Le modèle devait tout recalculer. Maintenant, l'API d'OpenAI garde l'empreinte de ce contexte en mémoire. Donc, si tu envoies un doc de 100 pages et que tu poses 10 questions, tu payes l'entrée complète juste pour la première question.
Ah ouais, d'accord.
Pour les 9 autres, il lit le document depuis son cache et c'est pour ça que ça tombe à 10 centimes.
C'est super malin. Alors, pour Sol, la grue, logiquement, c'est cher. 5 dollars l'entrée, 30 la sortie, 50 centimes le cash. Mais le choc, vraiment, c'est Terra. Il l'annonce à 2,50 dollars l'entrée et 15 dollars la sortie.
C'est ça qui a rendu tout le monde fou.
Bah oui, parce que l'ancienne génération GPT 5.5, elle était à 5 $ et 30 $. Même Claude Opus 4.8 d'Anthropic est à 5 et 25. Donc là, Terra promet d'être aussi fort que 5, mais à la moitié du prix, littéralement.
Sur le papier, c'est imbattable. C'est pour ça que tout le monde s'est jeté dessus.
Et c'est là qu'on arrive à l'analyse de Simon Willison dans le guide. Attends, si c'est 2 fois moins cher, pourquoi la facture augmente après la migration ? Il est où le piège ?
Le piège, il est dans la mécanique de pensée du modèle. Avec les anciennes générations, comme 5.5, tu posais une question, tu avais une réponse directe. Les tokens générés, c'était juste le texte que tu lisais.
Ok, du 1 pour 1, quoi.
Voilà. Mais avec la famille 5.6, surtout Sol et Terra, ils ont une architecture de pensée latente. En gros, l'IA ne répond pas tout de suite. Elle entame un dialogue interne caché.
Elle se parle à elle-même.
C'est ça. Elle génère des étapes de logique, elle corrige ses erreurs, tout ça en coulisses. Le problème, et c'est là que ça fait mal, c'est qu'OpenAI te facture absolument tous les tokens générés, y compris ceux de la réflexion cachée.
Ah la vache! Donc si je crains Terra pour un truc tout bête et que l'IA décide de faire du zèle et génère 1000 tokens de réflexion dans sa tête pour me sortir une phrase de 50 mots...
Tu paies pour 1050 tokens.
Mais c'est l'arnaque.
Bah, c'est le piège des tokens de raisonnement. Si Terra réfléchit 3 fois plus longtemps pour faire le même boulot que l'ancien modèle, le fait que son prix facial soit divisé par 2, bah, ça compense pas. Ta facture grimpe.
Ouais, donc en fait, l'optimisation des coûts, c'est plus du tout regarder la grille tarifaire, c'est carrément de l'architecture. C'est pour ça qu'il faut vraiment assigner le bon modèle à la bonne tâche.
Exactement. Au cas de Fusion, l'explique très bien. Luna, le scooter, c'est pour trier des milliers de mails ou extraire des données simples. On veut de la vitesse, on veut pas qu'il réfléchisse.
Ouais, on lui coupe la réflexion. Et Terra, du coup, c'est pour le support client ou la rédaction. Et Sol, bah, on le garde dans un coffre-fort pour le code complexe, quoi.
C'est ça. Mais ce qui est super intéressant dans l'article, c'est qu'il va encore plus loin. Il pose la vraie question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une IA pour cette tâche ?
Ah oui, ça j'ai adoré. Une agence d'IA qui dit « mettez pas d'IA partout ». C'est le syndrome du marteau magique. Quand t'as un nouveau jouet comme GPT 5.6, tout ressemble à un clou, quoi.
Grave. Les gens disent « oh, je vais demander à l'IA de lire le mail, de voir s'il y a le mot urgent et de le transférer ».
Alors qu'une simple condition « si alors » fait ça en 1 milliseconde.
Exactement. L'approche déterministe, une petite règle de code, ça coûte 0 API, ça va à la vitesse de la lumière et c'est fiable à 100%. L'IA, c'est des probabilités. Ça amène de la latence, des coûts.
Et des erreurs.
Et des erreurs, oui. Donc la règle d'or, c'est LLM, on garde l'IA pour la nuance, l'ambiguïté, le langage naturel. Tout ce qui est structuré, on le laisse au code classique.
Bon, alors, disons qu'on a un vrai besoin. Hein. Par exemple, analyser des réclamations clients super complexes dans NLNN. On choisit Terra. Comment on fait la migration technique sans tout casser ?
Déjà, dans NLNN, il faut bien choisir ses nœuds. On utilise le nœud OpenAI Shunt Model, bien sûr, mais après, il y a une subtilité. Il faut le connecter soit à un Basic LLM Chain, soit à un AI Agent.
Et c'est quoi la grosse différence ? Parce que le guide insiste vachement là-dessus. Si on veut utiliser la recherche web ou des outils externes, on ne peut pas utiliser la Basic LLM Chain, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. La Basic LLM Chain, c'est un tuyau, tout droit. Tu envoies du texte, l'IA clash du texte. Fin de l'histoire.
D'accord.
L'IA agent, lui, gère ce qu'on appelle l'appel de fonction. Donc l'IA peut s'arrêter au milieu de sa réflexion, dire à N8N « Hey, lance-t-elle script pour vérifier les stocks ?» Elle attend la réponse et ensuite elle finit sa phrase.
Ah ouais, donc c'est super puissant, mais faut pas se tromper de nœud. Et il y a un autre détail crucial dans l'interface, c'est le nom des modèles, non ?
Oh que oui. Faut surtout pas utiliser d'alias générique. Faut taper l'identifiant exact ai.gpt-5.6-terra. Si tu mets un alias, OpenAI peut changer le modèle pointé en arrière-plan sans te prévenir, et là tes coûts explosent.
L'horreur. Bon, une fois que c'est paramétré, l'article donne une méthode en 4 étapes pour migrer en douceur. Étape 1, c'est mesurer la base actuelle. Volume, tokens...
Ouais, sans ça, tu sais pas si t'as gagné de l'argent.
Logique. Ensuite, l'étape 2. Et c'est là, franchement, que je me pose des questions. Le test en parallèle. En gros, on fait tourner l'ancien modèle et le nouveau en même temps sur chaque requête client, sans rien montrer au client.
Exact.
Puis l'étape 3, des humains comparent les résultats. Et l'étape 4, on bascule. Mais attends, financièrement, c'est chaud.
Tu trouves ?
Bah, reprenons l'exemple de l'article. Un agent qui traite 2000 réclamations par mois. Avec l'ancien GPT 5.5, ça coûte $45. Avec Terra, ça tombe à 22,50 $.
Ouais, on économise 22,50.
Voilà. Et pour gagner ces 22 balles, on va demander à des ingénieurs de dupliquer des flux, payer le double d'API pendant des semaines et mobiliser des gens pour lire les tests CIMA. Pourquoi on bascule pas juste un vendredi soir pour voir?
C'est la réflexion classique, hein. Si tu regardes juste la facture de l'API, c'est absurde. Mais le vrai danger, c'est la régression invisible.
C'est-à-dire?
Imagine, tu zappes le test parallèle. Tu déploies Terra un vendredi. Techniquement, zéro bug. Le serveur tourne. Sauf que Terra a une logique un poil différente de l'ancien modèle.
OK.
Et face à la politique de retour de ta boîte, le nouveau Terra décide, tout seul, qu'un client énervé qui demande 10% de remise a finalement droit à un remboursement intégral de 100%.
Oh mon Dieu, sans blague, il peut faire ça?
Bien sûr. Et comme il n'y a pas de bug technique, aucune alerte ne sonne. Ton agent IA distribue des produits gratuits tout le week-end, avec le sourire.
C'est le cauchemar absolu.
Et le lundi matin, quand le service client réalise, t'as perdu 5 000 $ de marchandises, tout ça parce que tu as voulu gratter 22 $ et sauter la phase de test.
Ah ouais, vu comme ça, le test parallèle, c'est pas pour voir si ça marche techniquement, c'est une assurance anti-hallucination.
Exactement. C'est pour vérifier que le nouveau modèle comprend tes règles métiers de la même façon.
Bon, ça calme. Donc, si on résume un peu tout ça, migrer vers la famille 5.6, c'est un travail d'horloger. Faut choisir le bon véhicule, Luna, Terra ou Sol. Faut surveiller les tokens de raisonnement qui gonflent la facture, bien paramétrer à NIT, et surtout faire les 4 étapes.
C'est exactement ça. Mais au-delà de toute cette technique, il y a un truc beaucoup plus profond à retenir avec ces modèles.
Tu penses à quoi ?
La fameuse date de cut-off.
Ouais, le 16 février 2026. Tu peux prendre la grue seule, payer super cher pour avoir le raisonnement ultime. Si tu lui demandes d'analyser un truc qui s'est passé le 17 février, elle est aveugle.
C'est fou quand on y pense. Ces neurones sont figés. Et c'est ça la vraie leçon. L'intelligence brute aujourd'hui, ça vaut plus grand-chose. C'est devenu une commodité. On l'achète au kilo de token.
Donc, l'avantage pour une entreprise, de moins, c'est pas d'avoir le modèle le plus cher.
Pas du tout. L'avantage, c'est de savoir gérer le contexte. C'est l'architecture RAG. Tu sais, la génération augmentée par la recherche.
Ouais, le fait d'aller chercher la bonne info en temps réel pour la donner à l'IA.
C'est ça. Construire des tuyaux dans NN6 qui plongent dans tes bases de données, tes stocks en temps réel, et qui nourrissent le modèle juste avant qu'il parle.
En gros, un petit scooter Luna pas cher, mais gavé avec un contexte en temps réel parfait, il sera toujours meilleur qu'une grue Sol fort de prix qui devine le présent avec des infos vieilles de 6 mois.
Exactement. L'intelligence s'achète, mais le contexte, lui, bah, il se construit sur mesure.
C'est super inspirant pour finir. Ça invite vraiment ceux qui nous écoutent à repenser la vraie valeur de leurs architectures bien au-delà de la hype du dernier modèle d'OpenAI. Eh bah, ça fait pas mal de choses à digérer pour les prochains chantiers d'automatisation.